Chapitre 3. J'ai un aiguillon. J'avais rarement rencontré une auberge ayant aussi peu de prétentions que celle du boucher Saint-Nicolas. Mais j'étais destiné à en voir beaucoup du même type dans mon voyage. Elle était vraiment caractéristique de ce pays de montagne de France. Imaginez une chaumière à deux étages avec un banc devant la porte, les tables faisant suite à la cuisine, de sorte que Modestine et moi nous pouvions mutuellement nous entendre dîner. L'ameublement le plus sommaire, le sol de terre battue, une seule chambre pour les voyageurs et pour tout confort, les lits. On fait la cuisine et l'on mange côte à côte, dans la même pièce, où la famille couche aussi la nuit. Quiconque a la fantaisie de se débarbouiller doit le faire en public à la table commune. Le régime est quelque peu parcimonieux, le poisson sec et l'omelette ont figuré plus d'une fois à mon menu. Le vin est des plus médiocres. Quant à l'eau-de-vie, c'est une horreur. Il n'est pas impossible que le dîner soit agrémenté par la présence d'une grosse truie, qui s'agite sous la table et se frotte contre vos jambes. Mais l'aubergiste, 9 fois sur 10, se montre bienveillant et attentif. Aussitôt que vous franchissez le seuil de la porte, vous cessez d'être un étranger. Et si rude et peu accueillant que soient ces paysans sur les chemins, on leur découvre, quand on s'assoit à leur foyer, une teinture de bonne éducation instinctive. Au boucher Saint-Nicolas, par exemple, comme je débouchais ma bouteille de Beaujolais et que je demandais à l'hôte de se joindre à moi, il n'en voulut accepter qu'une goutte. « C'est que, voyez-vous, je suis amateur de bon vin, me dit-il, et je serai capable de ne pas vous en laisser assez. » Dans ces auberges rustiques, il est convenu que le voyageur doit manger avec son propre couteau, on ne lui en donne pas, à moins qu'il ne le demande. Un verre, un morceau de pain, une fourchette de fer, et la table est mise. Le maître de l'auberge du boucher manifesta une grande admiration pour mon couteau dont le ressort le remplit d'étonnement. « Je n'en ai jamais vu de pareil, je parie que ça vous coûte au moins 5 francs. » Quand je lui dis qu'il m'en avait coûté 20, il en resta bouche bée. C'est un beau vieillard, doux, aimable, sensible et étonnamment ignorant. Sa femme, dont les manières étaient moins agréables, savait lire, mais je suppose qu'elle ne lisait jamais. Elle n'était pas dépourvue d'intelligence et parlait sur un ton tranchant, comme une femme qui tient la queue de la poêle. « Mon homme ne sait rien, » dit-elle, avec un mouvement de tête irrité. « Il est comme les bêtes. » Et le vieux bonhomme acquiesça, du bonnet. Point de mépris du côté de la femme, pas plus que de honte du côté de l'homme. Le fait accepté loyalement, on n'en parlait plus. J'eus à subir un examen serré au sujet de mon voyage. La femme comprit tout de suite, et esquissa en un tournement le plan de ce que je devrais, une fois rentré au bercail, dire dans mon livre. Si l'on fait ou non la moisson, dans tel ou tel endroit, s'il y a des forêts, les coutumes des habitants, et par exemple, tout ce que moi et le maître de la maison nous pouvons vous dire, les beautés de la nature, et tout le reste, et elle m'interrogea du regard. « C'est tout à fait cela, lui dis-je. « Tu vois, dit-elle à son mari, j'ai compris, moi. » Ils écoutèrent tous deux avec beaucoup d'intérêt le récit de mes aventures. « Demain matin, dit le mari, je vous fabriquerai quelque chose qui vaudra mieux que votre bâton. Une bête pareille, ça ne sent rien. Dur comme un âne, c'est le proverbe qui le dit. Vous pourriez l'assommer de coups de trique que vous n'en viendriez pas à bout. » Quelque chose de mieux. Je ne me doutais guère de ce qu'il m'offrait. La chambre à coucher contenait 2 lits. On m'en donna un, et j'avoue que je fus quelque peu décontenancé en voyant un homme avec sa femme et son enfant en train de monter dans le second. Ce fut ma première expérience de ce genre, et si je dois toujours me sentir aussi sot et mal à l'aise, je prie Dieu que ce soit la dernière. Je n'osais lever les yeux, et je ne vis rien de la femme si ce n'est qu'elle avait de beaux bras et ne semblait pas le moins du monde gênée de ma présence. De fait, la situation était plus embarrassante pour moi que pour le couple. À deux, on s'aide mutuellement à prendre une contenance, c'est le monsieur seul qui se sent rougir. Mais je ne pouvais m'empêcher d'attribuer mes sentiments au mari et je m'efforçais de me le concilier en lui offrant un verre d'eau-de-vie tiré de ma gourde. Il me dit qu'il était tonnelier à Alès, qu'il se rendait à Saint-Étienne pour chercher de l'ouvrage et qu'à ses moments perdus, il exerçait le funeste métier de fabricant d'allumettes. Quant à moi, il devina tout de suite que je devais être marchand d'eau-de-vie. Je me levai de bonne heure, lundi 23 septembre, et expédiai ma toilette comme un coupable pour laisser le champ libre à madame la tonnelière. Je bus un bol de lait et sortis pour explorer les environs du boucher. Il faisait très froid. Le matin était gris et une bise hivernale soufflait. Des nuages épais et bas couraient dans le ciel. Le vent sifflait sur le plateau dénudé. Seule une tache de couleur s'étalait dans le lointain derrière le Mézenc et les montagnes de l'Est, où le ciel gardait encore les tons orangés de l'aube. Il était 5 heures du matin, et nous étions à 4000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Je dus mettre les mains dans mes poches et courir. Les gens s'en allaient aux travaux des champs par groupes de 2 ou 3, et tous se retournaient pour regarder l'étranger. Je les avais vus rentrer la veille au soir, je les voyais repartir pour les champs. C'était en résumé toute la vie du boucher. Quand je revins à l'auberge pour faire un semblant de déjeuner, l'hôtesse était dans la cuisine et peignait les cheveux de sa fille. Je lui fis compliment de leur beauté. « Non, dit la mère, ils ne sont pas si beaux que ça. Voyez, ils sont trop fins. » Ainsi, le sage paysan trouve moyen de se consoler de ses disgrâces physiques et par un curieux usage de l'esprit démocratique, les imperfections du plus grand nombre deviennent un type de beauté. Et, demandai-je, où est monsieur ? Le patron est en haut, répondit-elle, pour vous faire un aiguillon. Béni soit l'homme qui inventa les aiguillons. Béni soit l'aubergiste du boucher Saint-Nicolas qui m'en fit connaître l'usage. Cette simple baguette, avec une pointe d'un 1/8 de pouce, devint en vérité un sceptre dès qu'il l'eut mise entre mes mains. À dater de ce moment, Modestine fut mon esclave. Une piqûre, et elle dépassait le seuil de l'écurie la plus engageante. Une piqûre, et elle partait d'un aimable petit trot qui dévorait les lieux. Ce n'était pas, somme toute, une vitesse bien extraordinaire. 10 000 en 4 heures, ce fut son maximum. Mais quel miraculeux changement depuis la veille! Ne plus avoir à brandir un gourdin brutal, ne plus frapper d'un bras courbattu. Fini le maniement du sabre de cavalerie, à nous l'escrime discrète du gentleman. Était-ce ma faute si une goutte de sang apparaissait de temps en temps sur le pelage gris-souris qui couvrait les côtes anguleuses de Modestine? Sans doute aurais-je préféré qu'il n'en fût pas ainsi. Mais les épreuves du jour précédent avaient banni toute humanité de mon cœur. La méchante petite rosse ne voulait pas se laisser prendre au bon procédé. Il fallait bien employer l'aiguillon. Il faisait un froid aigre et noir. Sauf une cavalcade de femmes à califourchon sur leurs bêtes et 2 facteurs ruraux, la route fut mortellement solitaire jusqu'à Pradelle. Je ne me souviens que d'un incident. Un joli poulain, avec une clochette au cou, accourut du bout de la prairie pour foncer sur nous, soufflant des naseaux d'un air martial, comme s'il était en passe d'accomplir de grands exploits. Et tout d'un coup, une autre idée traversant son cœur juvénile, il fit volte-face, et s'en retourna au galop comme il était venu, sa clochette tintant au vent. Longtemps encore, je gardais devant les yeux la noblesse de son attitude, et je continuais à entendre le tintement de sa cloche. Lorsque j'atteignis la grande route, la chanson des fils télégraphiques semblait prolonger la même musique. Pradelle, située sur le versant de la montagne qui domine l'Allier, est entourée de riches prairies. On coupait le regain de tous côtés. Ce qui répandait dans la contrée, par cette orageuse matinée d'automne, une odeur de foin qui n'était pas de saison. Sur la rive opposée de l'Allier, le pays montait pendant des lieues. C'était un paysage d'automne aux teintes fauves. Les bois de sapins y posaient des taches sombres et les routes qui serpentaient sur la montagne le traversaient de leur clair sillage. Sur cet ensemble, les nuages répandaient uniformément une ombre pourpre, d'aspect triste et menaçant, qui exagérait les hauteurs et les distances, mettant encore plus en valeur le ruban sinueux de la grande route. L'aspect mélancolique de ce paysage était cependant encourageant pour le voyageur, car je me trouvais maintenant sur la limite du Velay, et ce que j'apercevais appartenait à une autre région, le Gévaudan sauvage, montagneux et inculte, qui n'avait été déboisé que récemment par crainte des loups. Les loups, hélas, aussi bien que les bandits, semblent reculer à mesure que le voyageur avance, et vous pouvez sillonner en tous sens notre Europe trop confortable sans tomber sur une aventure digne de ce nom. Mais là, plus que partout ailleurs, on se sentait au seuil de l'espérance, car c'est le pays de la bête à jamais mémorable, le Napoléon Bonaparte des loups. Quelle carrière fut la sienne! Elle vécut 10 mois à Franche-Lippé dans le Gévaudan et le Vivarais. Elle mangea des femmes, des enfants, des bergères célèbres par leur beauté. Elle poursuivit des cavaliers armés. On la vit donner la chasse en plein midi à une chaise de poste et à son postillon sur la grande route royale. Et la chaise et le postillon fuyaient devant elle au galop. Elle fut affichée comme criminelle d'État. On mit sa tête à prix à 10 000 francs. Et voyez pourtant, quand elle fut tuée et envoyée à Versailles, elle se trouva n'être qu'un loup ordinaire, et même de petite taille. Et cependant, je puis aller d'un pôle à l'autre, comme chantait Alexander Pope. Le petit caporal a ébranlé l'Europe, et si tous les loups avaient été comme celui-ci, ils auraient changé l'histoire du monde. Monsieur Élie Berthet a fait de lui le héros d'un roman que j'ai lu et que je n'ai pas envie de relire. Je dépêchai mon déjeuner et résister à l'invitation de l'hôtesse qui m'engageait à visiter Notre-Dame de Pradelles, qui a fait beaucoup de miracles, bien qu'elle soit en bois. Moins de 3 quarts d'heure après, je piquais Modestine sur la pente escarpée qui descend à Langogne, sur l'Allier. Des 2 côtés de la route, dans les grands champs poussiéreux, des laboureurs préparaient la terre pour le printemps prochain. Tous les 50 mètres, une paire de bœufs paisibles, à l'encolure puissante, tiraient patiemment sur la charrue. Je vis un de ces 12 et formidables serviteurs de la glèbe se prendre d'un intérêt soudain pour Modestine et moi. Le sillon qu'il traçait allait vers la route. La tête de l'animal était solidement attachée au joug, comme celle des cariatides sous une lourde corniche. Mais il levait vers nous ses gros yeux honnêtes et nous suivit de son regard ruminant, jusqu'à ce que le maître eût tourné la charrue et lui eût fait remonter le champ. De toutes ces charrues qui fendaient la terre, du piétinement des bœufs, des mottes sèches qu'un paysan brisait çà et là avec sa houe, le vent soulevait des poussières légères, qui semblaient autant de fumée. C'était un beau paysage rustique, où l'on saisissait la vie en pleine action, et comme je continuais à descendre, les hauteurs du Gévaudan, toujours en face de moi, semblaient monter sur le ciel. J'avais traversé la Loire le jour précédent, mais j'allais maintenant traverser l'Allier, car les 2 fleuves voisinent dans leur enfance. Juste au pont de Langogne, au moment où commençait à tomber la pluie qui menaçait depuis longtemps, une gamine de 7 à 8 ans m'adressa la phrase sacramentelle. « D'où ce que vous venez ?» Elle le fit avec un air de telle supériorité que je me mis à rire, ce qui rabattit son caquet instantanément. Elle comptait évidemment sur mon respect. Aussi demeura-t-elle à me regarder avec une indignation silencieuse, tandis que je traversais le pont et que j'entrais dans le comté du Gévaudan.